7 pour Mikael Yonra, puisque c'est lui qui a réussi le break le premier en menant 3 jeux à 1, mais il s'est laissé faire revenir Mikael Yonra par un Feliciano Lopez, toujours aussi impressionnant, aussi spectaculaire. C'est un attaquant, un adepte du service volé, tout comme d'ailleurs Mikael Yonra, mais pour l'instant avantage à l'Espagnol. 5 jeux à 3 dans la deuxième manche. Je vous rappelle que le premier set a été remporté par Feliciano Lopez sur le score de 7-6.
Merci Fabrice Abgral en direct du Palais Omnisports de Paris-Bercy, 15h04 sur Inter.
Jeudi, France Inter poursuit son Tour de France. Avant l'échéance présidentielle de 2012,
une fois par mois,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Jeudi,
en direct de Besançon,
à la rencontre des auditeurs.
Retrouvez la matinale de Patrick Cohen,
Pascal Clark,
rendez-vous à partir de 9h10, Downtown de Philippe Collin et Xavier Mauduit.
Bonsoir, on vous écoute.
Et le téléphone sonne d'Alain Bédoué.
Le Tour de France de France Inter.
12 mois,
12 villes,
12 éclairages.
Venez nous retrouver jeudi, en direct de l'Hôtel de Ville, place du 8 septembre à Besançon.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter,
la différence.
Et pour l'instant, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
C'est loin la gauche. Tais-toi et nage.
Oui, on entend une information, un guide de montagne qui est coincé avec sa cliente à montagne, enfin coincé, on ne sait pas comment. Enfin, c'est rigolo quand même, parce que 6 jours ensemble, comme ça, avec sa petite cliente, il doit se passer des choses, hein. Ils doivent se réchauffer tous les deux, ils doivent être bien, bras dessus, bras dessous. Ils n'ont pas le choix, hein. 6 jours, ça fait long quand même, hein. Daniel, tu resterais 6 jours avec une cliente, toi, coincée à la montagne, là-haut, dans le froid. Hein, il doit se passer des choses quand même. Il doit voir le picac d'As bien raide, lui. On est con, Daniel. On va enfin, faut se détendre, hein. Les actualités sont tellement tristes, il faut bien se détendre. 6 jours, ça va faire 7 jours, une semaine, bientôt tous les deux. Et le mari doit faire la gueule, il y a ma femme, elle est coincée avec le guide là-haut, depuis une semaine déjà. Oh, lui doit être cocu, le mec. On est con, Daniel. Qu'est-ce qu'on est con. Faut bien se détendre. Le guide de montagne.
Salut Daniel, salut les AMG. Bah, juste pour vous dire que depuis vendredi soir, il y a les indignés qui sont à la défense, qui se sont fait piquer leur tente, leur sac de couchage, leur bouffe, hein, tout ce qui peut leur servir à tenir par les CRS. La télé n'en parle pas ou très peu. Et ça serait bien si des AMG qui soutiennent le mouvement des indignés, l'occupation de la défense, pouvaient leur amener du café, à manger, des couvertures, enfin tout quoi. Ils essayent de tenir le coup, mais ils sont entourés de tellement de flics qu'ils peuvent rien faire et dans une quasi-indifférence générale. Donc voilà. Si on a que ça touche, et ben allez leur filer un coup de main. Moi je monte ce week-end. Voilà, Cédric d'Annecy, ciao.
Coucou les Français joyeux et plein d'espoir. Eh ben, en fait, Nicolas Sarkozy, il vous l'avait dit au début, quoi, en 2007, qu'il voulait être le président du pouvoir d'achat. Mais vous n'aviez pas questionné pour savoir de quel pouvoir d'achat de la part de qui? Ben oui, il est le président du pouvoir d'achat. Les banques peuvent acheter les États, tout privatiser, tout s'approprier, voilà. Ben oui.
Salut à tous les auditeurs, ici on est à Saint-Denis, au siège de Randstad, donc un des plus grands groupes d'intérim de français puis dans le monde. Et on a décidé, après moult réflexions, certains se sont engagés à faire une grève de la faim, parce que c'est plus supportable l'accidentologie, la gravité des accidents de travail dont, que subissent les intérimaires, on voudrait que ça cesse. Alors on a beaucoup d'engagements verbaux, tout le monde est d'accord avec nous. Par contre, dans les faits, rien ne change. On se fout de nous, on nous méprise, rien n'avance. Voilà, on attend des politiques qui passeront et puis peut-être qu'on entendra un peu plus parler que nous, ce qu'on arrive à faire à notre petit niveau dans l'intérim. Si vous voulez nous soutenir, passez faire un tour boulevard Wilson à Saint-Denis, au siège de Randstad. Vous verrez un petit peu d'animation. Ciao.
Bonjour, salut Daniel. Moi qui étais première assistante en 1994 sur le film Les Hirondelles ne me mordent pas à Jérusalem de Rita Bailly, et qui peut raconter comment nous tournions dans les camps palestiniens avec les mitraillettes israéliennes braquées sur nous, ou des colons dans le champ de la caméra, alors que le ramasse tenait ses meetings sans problème, j'apprends, grâce à ta formidable émission sur Ramallah, la nouvelle méthode de l'Occident et d'Israël. L'analyse de Ahmed est limpide. Et je suis convaincue que rien n'arrêtera plus le processus. Et même pas ce fou furieux de Netanyahou qui se dit prêt pour des frappes sur le nucléaire iranien dans un article que je viens de lire. Vive le futur État palestinien. Et merci d'avoir passé mon message ce 7 novembre, toujours de la vieille dame de 76 ans.
Pour aller de Jérusalem à Ramallah, il faut passer le célèbre checkpoint de Calandia. Tout de suite après le checkpoint, on est à l'entrée de Ramallah. Sur la droite de cette grande artère si animée, il y a un camp de réfugiés, invisible, où s'entassent 20 000 personnes sur 1 km carré. Au bout du camp, comme horizon, un terrain vague pestilentiel, une carrière, plusieurs colonies israéliennes et un camp militaire. Là, pas de miracle économique, pas de Dubaï, pas de bling-bling, juste la misère et le désespoir. C'était Marcel de Vimille dans le Pas-de-Calais.
Oui, Marcel, mais sauf que ça, on le voit pas. À Ramallah, c'est planqué. C'est derrière les grandes publicités pour des banques qui font des crédits immobiliers. C'est planqué. Les camps de réfugiés qui parfois sont là depuis 1948, il faut les chercher. Ils sont dissimulés. C'est ça le but de cette ville Ramallah si étonnante dans laquelle on va à nouveau se balader aujourd'hui, étonnante parce que elle correspond pas du tout, Ramallah, capitale d'un État qui n'existe pas. Elle est étonnante parce qu'elle correspond pas du tout justement à l'idée qu'on se fait de la Palestine, des territoires palestiniens, toujours des images toujours difficiles, terribles, dramatiques. Là, pas du tout. Tout va bien, c'est joli comme tout. C'est comme vous disiez, bling bling, boîte branchée la nuit, resto tout à fait comme on en trouve à Paris ou à Tel Aviv. Et c'est ce miracle qui ressemble quand même beaucoup à un mirage dans lequel on va se balader à nouveau aujourd'hui dans cette série Palestine. Quel état ? Question. Et Ramallah, une cage dorée. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Voilà, je téléphonais parce que j'ai écouté les informations ce matin à France Inter, là, un peu avant 8 heures, et j'ai entendu le journaliste du Monde là, qui disait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que si on avait la récession, si on avait la crise, si on avait tout, c'est qu'on avait bien cherché, hein. Eh bien, je suis désolé, ces messieurs, il faudrait qu'ils arrêtent de dire « on », parce que « on », ça ne veut rien dire du tout. Voilà, moi j'estime que moi, avec mes 1100 euros par mois et mon crédit de 150 euros, je n'ai rien cherché du tout. Et je pense qu'il faut quand même faire une différence entre des personnes comme moi, ou qui gagnent 850 euros par mois, ou 950 euros par mois, 1000, 1200, et des gens qui, hein, vous savez de qui je veux parler, hein, qui gagnent 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 500 000 euros par mois, ça c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais moi je suis désolé, je ne vis pas au-dessus de ces moyens. Il faut arrêter de dire la France, la Grèce, la Syrie, là, vivent au-dessus de leurs moyens. Il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens de les payer. Mais les gens qui ont de bons revenus et tout ça, je suis désolé, ils ne vivent pas au-dessus, ils vivent au-dessous de leurs moyens. Voilà, alors messieurs les journalistes, essayez un peu de faire la différence entre un milliardaire et un gars qui est au SMIC. Ça serait quand même intéressant d'arriver à comprendre ça. Salut à tous et bonne émission. Ciao.
Bonjour Daniel. Ce soir, donc, le Café Repère d'Angers se réunira de 19h à 21h au Café des Orfèvres, place du musée à Angers. Et nous en profiterons avec tous les AMG pour échanger, débattre sur notre société où la crise financière occulte la crise sociale et où la dette malmène les solidarités et accentue la précarité. Donc rendez-vous pour tous les AMG ce soir à Angers. Café des Orfèvres, 19h. Merci Daniel, au revoir.
PalestineIsReady.com.
Là, on est sur les hauteurs de Ramallah et il y a de magnifiques, énormes constructions. Et tu me dis que ça, c'est les rois du béton qui ont construit.
Ça, c'est les rois du béton de Ramallah, en fait. Et c'est en fait quatre frères qui possèdent la compagnie. Et c'est les rois du béton. Du coup, en fait, ils ont construit quatre grands palais à l'identique, avec du marbre clinquant. Et c'est très, très voyant. Hein.
Les nouveaux riches.
Exactement.
Les nouveaux riches du béton. Alors ça, c'est vraiment les palais de la corruption.
Tout à fait. D'ailleurs, ils étaient un peu inculpés par certains tribunaux. Il y a toujours des affaires. Ils corrompent tous les marchés publics, les marchés aussi des compagnies qui sont cotées en bourse. Quand ils décident de construire ou faire des travaux, il faut qu'ils fassent des appels d'offres. Et malheureusement, ces rois de béton sont dans un cercle douteux de corruption et d'attribution du marché, soit public, soit privé.
Et là, il y a un autre palais qui est en construction, là-haut. Ça, tu sais pour qui ?
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, mais ça doit être un des cousins.
Ok, allez, super. On va faire du sport.
Donc là, on va à un centre sportif qui s'appelle le Try Fitness.
C'est ton centre aussi, tu viens faire ton Health Club, là.
Bien sûr. C'est le plus grand centre fitness de Ramallah, où il y a une piscine, squash, toutes les machines fitness et... voilà, on peut même avoir un bon cafétéria. Donc on arrive à la réception là.
Salut, monsieur Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Guy Van Cotil, Palestine. Quel état ? Ramallah, une cage dorée.
Ah voilà la salle de musculation. Donc en fait c'est le centre bodybuilding en fait, musculation, et où il y a un public extrêmement varié. Il y a des locaux, des internationaux, des gens de tous les âges. Là où on a eu le plus de gens de toute l'histoire de ce club, c'est pendant la guerre du Gaza. Les gens étaient tellement sous pression qu'ils voulaient vraiment... Et c'était pas uniquement ce club, mais tous les clubs sportifs. Donc ça, c'est une classe d'aérobic.
Ah oui, on est loin de l'image du combattant palestinien, le fedaïn avec la calache et le keffieh. On est loin, bien loin de la photo du gamin de Naplouse qui jette des pierres sur les chars israéliens. On est loin de l'image du martyr sur les murs criblés de sang, avec le dôme de la mosquée Al-Aqsa en arrière-plan. C'était au temps de la deuxième intifada, c'est-à-dire, on a l'impression, il y a trois siècles, quand on arrive à Ramallah. Et même, une image qui s'éloigne presque déjà, c'est l'image du barbu obtus du Hamas et de la femme voilée. On ira à Gaza et on va voir que même peut-être que cette image-là est compromise. Mais là, pour l'instant, on est en Cisjordanie, on est à Ramallah, et l'image aujourd'hui de la Palestine, ce serait, si on en juge, parce qu'on voit dans certains quartiers de Ramallah, peut-être pas dans toute la ville, l'image, ce serait une femme blonde qui, dans son 4x4 noir, va dans son club de sport. J'exagère à peine, mais c'est un peu ce qui se passe dans cette ville d'une façon tout à fait étonnante. Des rues impeccables, des banques étincelantes, des bars branchés, des chichis, des bling-bling. Et c'est une politique qui a été choisi à un moment par le Premier ministre Salam Fayyad, le ministre toujours, faut ne jamais l'oublier, d'un État qui n'existe pas, qui assure la satisfaction générale, ancien directeur du FMI qu'il est, une bonne gouvernance dans la dépendance des bailleurs de fonds. Il y a une pluie de dollars qui est tombé sur ce coin du monde, sur cette Cisjordanie. On le disait hier, c'est la plus grande dotation de l'histoire des dotations. Voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup d'argent. Alors, on gouverne avec cet argent, on fait du business avec cet argent. Et c'est de l'argent qui vient comment ? C'est de l'argent qui vient au titre de l'aide. De l'aide au développement, tout un tas de pays, tout un tas de donateurs, tout un tas de bailleurs de fonds sont présents là aussi, bien évidemment. Une quantité d'ONG, une quantité astronomique d'ONG, de consultants de toutes sortes, dont des Palestiniens revenus de l'étranger, d'où l'anglais qu'on entend parler un peu partout. Bref, quelque chose de tout à fait étonnant qui sent évidemment la bulle, et d'abord la bulle immobilière, parce qu'on construit très très fort en ce moment à Ramallah. Il y a des grues partout, ça monte de tous les côtés, et on se dit qu'une bulle fut-elle immobilière, ça a ce site particulier, c'est qu'un jour ou l'autre, ça finit par péter. Quand est-ce que ça marchera ? L'idée générale, c'est de produire des faits accomplis pour que la réalité de l'État s'impose au monde. Et ça, c'est un aspect des choses. Mais il y a aussi qu'une bonne gestion de l'occupation rend cette occupation, somme toute, acceptable et même augmente le profit de l'occupant qui est invisible. Apparemment, on ne le voit pas, c'est-à-dire Israël est autour, mais Israël détient tout le pouvoir sur la Cisjordanie et sur cette ville. Absolument tous les pouvoirs, le pouvoir sur l'énergie, sur l'eau, sur l'électricité, sur toutes les ressources et sur les marchandises qui entrent, puisque 80% au moins de ce qui est consommé et utilisé comme produit dans l'espace de la Cisjordanie et donc de cette ville de Ramallah est d'origine israélienne. Donc c'est un très bon business pour Israël. Au fond, tout le monde s'y retrouve. Voilà une vitrine clinquante. N'allez pas dire que les Palestiniens sont maltraités. Qu'est-ce que vous racontez ? Regardez ça, ces images. Tout va bien, non ? Regardez, ils sont souriants, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils s'amusent, ils dansent jour et nuit, et ils font de l'aérobic, ils font du golf, tout ce que vous voulez. Donc, les bailleurs de fonds sont heureux, puisque voilà ce qu'on fait avec votre argent. Le FMI et la Banque mondiale, c'est les meilleurs élèves que nous ayons. Et puis, les Palestiniens, peut-être pas tous. Ça, peut-être pas tous. On ira en voir d'autres derrière ce décor dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, Ramallah, la cage dorée, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas suffisant.
plateau, on est au niveau moins 2.
Oh, le squat avec le squat.
Donc, deux grandes salles de squat.
En fait, le verre fili, il y a qu'un entraînement.
Nous avons organisé en fait un championnat de Palestine de squat il y a quelques jours pour marquer l'événement de septembre et la déclaration d'un État palestinien.
Ah.
Donc ça c'est la piscine.
Non, non, juste en dessous. أول نادي زودت له مجهز في بركة داخلية وكان كان نادي تراي فيتنس.
Donc c'est vraiment le premier club sportif où il y a une piscine semi-olympique en Cisjordanie.
C'est combien coûte l'abonnement à l'année?
Donc on est autour de à peu près 150 dollars par mois, 450 shekels.
150 dollars par mois.
Voilà.
Alors avec 150 dollars par mois, combien de personnes peuvent vivre dans un camp de réfugiés?
أكيد بدرو يعيشوا فيها كتير ناس. بس للأسف الاحتلال وجد كل شيء غالي في هالبلد هذه المعيشة غالية الأجار غالي أكل غالي كل شيء غالي في هالبلد هاي وهي سياسة الاحتلال مش سياسة السلطة.
Effectivement, cet argent peut faire vivre des familles dans un camp de réfugiés, mais il faut aussi se mettre dans la tête, on vit des conditions qui ne sont pas normales, et puis voilà, c'est lié à l'occupation aussi, notre vie est extrêmement chère. On a tous les équipements ici, on paye double taxe pour Israël. Et,
ouais, c'est ça, c'est-à-dire que...
Tous les coûts, électricité, eau, ça coûte excessivement cher aux Israéliens. Et c'est tous des coûts qui sont excessifs, qui sont liés à l'occupation.
C'est-à-dire que, en fait, vous travaillez pour les Israéliens quand vous leur apportez de l'argent.
Et bien sûr, et c'est la raison pour laquelle les Israéliens n'ont pas intérêt à avoir un État palestinien indépendant, parce qu'en fait, c'est un immense marché, les territoires, pour eux.
Les territoires, ça rapporte.
كبير لهم يعني مليارات بربحوا منها هذا على صعيد الرياضة الإشي البسيط فما بالك الأمور الاقتصادية الثانية السيارات المباني.
C'est des milliards et des milliards en fait. Ne serait-ce que l'activité sportive ici, elle rapporte beaucoup à Israël. Imaginez les autres activités comme la construction, les voitures, tout ça. Ça a un marché hyper profitable aux Israéliens.
C'est là l'économie.
Ça s'appelle une occupation économique.
Occupation économique.
L'Israël محتلين استيطان اقتصاديا.
Mais de toute manière, les Israéliens ici profitent de tout. Ils occupent les gens, les terres, l'eau, l'air, en fait, toutes les ressources. En fait, ils nous ont occupés. Quelque part, on appartient tous à eux.
Mais quand on voit ça, une grande salle de gym comme ça, de fitness, on se dit, mais tout va bien. De quoi ils se plaignent, ces Palestiniens?
حتى اللي بيجي بيلعب رياضة زي ما قلت لك في البداية هو جزء تفريغ نفسي يعني حواجز على كل كيلومتر مغلق في حاجز إذا ما عمل هيك رح ينجن اثنين هذه رسالة للاحتلال إنه إحنا هذا الشعب مش شعب إرهابي زي ما بدعوا إنه إحنا إرهابيين وهذا جزء إنه زيك زي الشخص اللي بفرنسا عايش له حقه في الحياة يتعلم له حقه يمارس الرياضة.
Il faut pas voir les choses de cette manière-là. Nous, ce qu'on veut, c'est de montrer aux gens, au monde entier, que nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes comme toute personne en France. On a le droit de faire du sport. Et surtout, on vient faire du sport pour se vider de cette occupation, de checkpoint et tout cela, de la réalité. On vient s'éloigner de la réalité quotidienne qu'on vit dans les territoires occupés par Israël.
جزء نضالي ممكن بعض الناس يقول لك اوكي شو هالنضال بس هاي عم بتوصل فكره انه احنا مش ارهابيين احنا ناس بنحب الحياه.
Donc c'est un message pour nous, c'est comme nous on étudie, ça fait partie de notre vie, on étudie, on fait du sport, c'est notre résistance à nous, c'est une résistance différente de ce qu'on voit tous les jours certes, mais c'est notre façon de résister aux Israéliens.
Si l'économie palestinienne trouve des débouchés dans les pays émergents et le monde arabe, elle dépend pour beaucoup d'Israël.
Euronews.
Certains veulent développer une nouvelle forme de relation commerciale, comme le groupe high-tech israélien Mellanox, fabricant de puces installées près de Tel Aviv et dans le nord du pays.
9 septembre 2011.
Son directeur a voulu externaliser une partie des activités à Ramallah, où il emploie plusieurs ingénieurs, et compte installer une filiale.
We were looking to have more employees.
On voulait accroître notre main-d'œuvre et être plus efficace. L'une des options était d'aller en Inde ou en Chine ou encore sur d'autres sites en Israël. Et puis, j'ai eu l'opportunité de le faire à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Le coût de la vie là-bas est bien plus bas qu'en Israël, et on peut avoir de bons employés à moindre coût. C'est une bonne opportunité, non seulement du point de vue du business, mais aussi du point de vue politique. Je crois que si on fait plus d'affaires ensemble, la probabilité de vivre en paix et ensemble sera bien plus élevée.
On pourrait, avec un certain mauvais esprit que certains auditeurs pourraient manifester, trouver dans l'archive qu'on vient d'entendre des accents absolument coloniaux. Ben oui, trouver une main-d'œuvre pas chère qu'on exploite, qui est tout à fait captive. Captive, oui, il y a des murs quand même, il y a des barbelés, il y a des limites. Il y a une grande difficulté à sortir de ce territoire. L'argent, évidemment, circule, mais certains produits sous contrôle circulent, mais les personnes, c'est tout à fait autre chose. Il y a un contrôle extrêmement sévère et sérieux de la circulation des personnes. Alors c'est sans doute intéressant de monter des entreprises dans les territoires, comme c'était intéressant de monter des entreprises dans nos belles colonies, jadis situation bel et bien coloniale. En tout cas, avec cette vitrine absolument mirobolante, je parlais de l'aide et des soutiens et de l'assistance financière qui caractérise cette ville et cette situation. C'est par milliards de dollars que c'est essentiellement USAID qui est l'agence qui gère complètement l'aide, presque exclusivement. C'est à partir de là que l'aide est distribuée, retombe dans toute une série d'ONG, d'organisations de toutes sortes qui diffusent ces sommes considérables. Non sans au passage quelques détournements, comme on l'a vu au début de ce reportage aujourd'hui, avec ces magnifiques châteaux en hauteur, sur les hauteurs de Ramallah. On verra un peu la même chose lorsque nous irons à Naplouse. Ça sent vraiment la corruption et le détournement. Mais sinon, il y a un fonctionnement comme ça de ces milliards, oui, bel et bien milliards de l'aide qui circulent et avec quoi on spécule et avec quoi on vit de cette façon tout à fait aussi brillante, clinquante qu'artificielle.
Bonjour. Bonjour. Alors vous pédalez là ?
بعمل كارديو قبل ما العب حديد.
Je me chauffe un petit peu avant de faire du musculation.
Vous venez souvent? Vous venez depuis longtemps?
Yeah, every day except Friday. Yeah, for 2 years.
Oui, je viens depuis 2 ans tous les jours, excepté pour vendredi.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
I'm a professor of chemistry in Birzeit.
Je suis un professeur de chimie à l'université de Birzeit.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique de votre pays?
Bon. الوضع السياسي يعني سيء.
La vie politique est très mauvaise.
أول رقم واحد الفساد.
Premièrement la corruption.
والمحسوبيات يعني زيها زي أي بلد عربي معفن يعني.
Donc la corruption est le wasta, c'est une autre forme de corruption. Ici c'est comme tous les autres pays arabes pourris.
Et les autres pays arabes, ils ont bougé, hein? La Tunisie a bougé, l'Égypte a bougé.
Ah, yeah, we need an Arab Spring as well.
En effet, j'ai tout à fait compris, mais on a en fait besoin d'un printemps arabe très bientôt. Les négociations, ils ont commencé en
1994.
On nous a promis, au bout de 2 ans de négociations, d'avoir un État.
رجعت مفاوضات يعني مفاوضات يعني vicious circle.
Ensuite ils ont fait d'autres cycles de négociations après négociations.
والمستوطنات زادت بشكل كبير.
Et les colonies ont augmenté d'une manière incroyable.
والجدار.
Et le mur après ?
وتسكير القدس
et le blocus autour de Jérusalem.
احنا بنلوم طبعا السلطه في هذا الحكي.
Et nous on pense que l'autorité palestinienne était responsable de tout cela.
D'accord, vous n'avez aucune confiance dans l'autorité palestinienne.
لا.
Non, j'ai aucune confiance.
هذول الناس هم اجوا نصبوا حالهم علينا يعني.
Ces gens-là, ils sont venus de loin et ils se sont proclamés leaders, proclamés de gérants des autorités là.
مخابرات امن قمع سجن
renseignements généraux sécurité corruption répression tout ça ensemble c'est ça l'autorité palestinienne
vous vous êtes battu dans les intifadas dans la première intifada
نعم شاركت وبعنف وبقوه
oui bien sûr et j'ai même résisté très violemment
et vous regrettez maintenant ou vous avez l'impression qu'on vole votre combat
ah مزبوط بس يعني هم اصلا موجود معي يعني منصبين حالهم علينا سواء كانوا برا او هون هم اللي سرقوا المقاومه يعني سرقوا المقاومه وجندوها لصالحهم مشان يعملوا سلطه هزيله يعني
effectivement ces gens-là ils sont venus de l'extérieur ou d'ici ils nous ont volé notre résistance c'est vrai mais je ne regrette jamais la résistance et d'être battu contre l'occupation
Salon de coiffure, à Ramallah, salon de coiffure, salon de beauté, de remise en forme, de maquillage, pour les dames de la bonne société de Ramallah. Qui vient ici ?
Alors en général, c'est toutes les femmes qui gagnent quelque chose comme 4000 dollars par mois pour faire des coupes. J'ai vu les prix ici en moyenne, ça coûte 100 dollars par coupe. Donc c'est pas toutes les femmes palestiniennes qui peuvent se permettre une beauté à 100 dollars par coupe.
Tu me disais, c'est une indiscrétion, là, il y a une dame qui est sous le séchoir. Et
qui est liée avec l'agence américaine de développement.
USAID.
USAID, exactement. Elle gère quasiment tous les fonds de l'agence américaine de développement ici. Parce que l'agence américaine de développement ne peut pas travailler avec le gouvernement de l'autorité palestinienne. Donc il passe par des agences, par des ONG. Notamment, c'est une ONG américaine qui s'appelle CHF. Et c'est une immense ONG qui brasse beaucoup de millions, en fait. Et donc, cette femme, c'est elle qui décide des programmes qui vont être mis en place avec l'autorité palestinienne.
En fait, ici, il faut comprendre une chose. Ramallah, c'est la capitale de l'industrie de l'aide. Et ici, quelqu'un a dit « la Cisjordanie est une prison ». Et Ramallah, c'est la cellule des VIP. Toute l'activité est autour de ces centaines et centaines de millions qui arrivent au titre de l'aide, qui sont répartis, qui sont redistribués sur des programmes divers et variés. C'est quand même ça le système.
Ah oui, bien sûr. Ramallah, c'est une ville complètement artificielle, qu'une vie que de services, il y a des fonctionnaires, en fait. C'est... Et en tout cas, pour des gens, pour les Palestiniens qui ne bénéficient pas de cette aide-là, qui est la majorité des... Restons honnêtes, la majorité de la population palestinienne voit tout cela d'un très mauvais œil. Parce qu'ils pensent que tout ce système ne leur permet pas d'avoir une vie meilleure, ne crée aucun changement dans leur vie quotidienne. Mais surtout, c'est un système qui fait en sorte que l'occupation dure dans le temps. C'est un système qui rend l'occupation plus durable dans le temps. Et pendant qu'on anesthésie les gens avec cette aide-là,
Bah, il y a la colonisation qui continue, les colonies qui s'expandent plus. En fait, la répression demeure. Et donc, la majorité des gens, ils ont ce regard très sceptique par rapport à ce qui se passe ici.
On est avec Rami, ce garçon qui parle, qui fait ses analyses et ses commentaires. C'est Rami qui, lui-même, est palestinien et connaît bien, très très bien, la situation de l'intérieur. On parle de USAID et de cette femme qui a ses responsabilités impressionnantes. Cette agence américaine de développement, elle n'est pas neutre, américaine de développement. À travers cette importante agence, les États-Unis peuvent appliquer, mettre en œuvre les politiques qu'ils souhaitent dans cette région. Il faut savoir, par exemple, que dans les rapports, si vous voulez travailler dans cette agence, il ne faudra jamais que vous employiez des termes comme occupation. Pas question d'employer un terme pareil. Si vous voulez demander, si vous avez un projet, si vous voulez demander des fonds pour votre projet, eh bien, ça, c'est des mots à bannir. Occupation. Palestine, de la même façon, il ne faut pas employer ce terme de Palestine. On voit tout de suite que, voilà, il faut toujours se méfier de ceux qui font le bien, parce que c'est par là que passent, évidemment, les politiques et les conceptions, somme toute, idéologiques des choses. Alors, on est dans ce salon de coiffure à Ramallah, avec des élégantes, tout à fait branchées. Comme cela dit, c'est un peu comme les salons de coiffure qu'on trouve partout dans le monde, et à commencer par Paris. Mais c'est évidemment étonnant pour Ramallah, c'est étonnant pour la Cisjordanie, c'est étonnant pour l'idée qu'on se fait de la Palestine, des territoires palestiniens, de voir des femmes avec le smartphone à l'oreille et les lunettes Gucci noires plantées dans le brushing. Voilà, glamour, spécial birthday issue.
Bonjour, vous pouvez vous présenter ?
Coiffeur, alors.
Je suis coiffeuse et je travaille à Ramallah.
Mais c'est pas n'importe qui peut venir ici.
زبائني كون ولا
في طبقة معينة في طبقة معينة يعني طبقة معينة يعني تجيني
Bien sûr, en fait, il y a toujours c'est une classe spécifique qui peut venir ici. C'est pas toutes les femmes qui peuvent. C'est le best. En fait, c'est le meilleur endroit de Ramallah.
The best in Ramallah.
Number one. Anaïda.
C'est numéro un ici à Ramallah.
Alors, coiffure plus épilation.
Exactement.
On fait aussi du peeling pour la peau, en fait.
La coupe, c'est 120 shekels.
$25.
Si on fait de chignon, c'est 300 shekels. Si on fait de maquillage, c'est un autre 300 shekels.
À peu près $100.
La couleur, c'est 350.
$100.
Donc, une cliente qui sort d'ici laisse en moyenne combien ?
يعني أنا بحسبها مرات بالشهر مش باليوم لأنه في عندنا زباين بيجوا أسبوعي بالشهر على القليل 1500 شيك
Moi je ne compte pas en fait en jour, je compte plutôt en mois parce qu'en fait la plupart de mes clientes viennent régulièrement toutes les semaines. Mais du coup en fait en moyenne par mois c'est on parle de 1500 shekels, qui est l'équivalent de $300.
C'est une affaire qui marche alors.
Oui. Bien sûr, oui. Moi, je pense que je suis le meilleur. Je pense. Not sure, mais je pense. Let's say one of the best.
Bon, alors parlons un peu de politique maintenant. C'est quoi votre prénom ?
Hanna.
Hanna.
Oui.
Et quelles sont les clientes que vous avez ici ?
جميع الأشكال الصغار الصبايا الستات الأكبر
c'est toutes les âges en fait les jeunes filles
40s
les quarantaines les trentaines
كل المسؤولين عن ال NGOs وكل المسؤولين عن الوزارات
tous les responsables des ministères des ONG
c'est ça ouais c'est la classe supérieure et c'est les gens qui travaillent dans les ONG
voilà
vous êtes vous profitez du NGO business.
Yes, bien sûr.
Oui,
bien sûr.
C'est un business très très florissant.
Oui. I think it's يعني بظن احسن
business de Ramallah, il y a NGO.
Le meilleur business aujourd'hui à Ramallah, c'est le business d'ONG.
They have to look perfect all the time, je pense.
Et les gens qui travaillent dans ce secteur-là doivent être présentables, doivent être au meilleur de leur forme, toujours.
Pour résumer le fonctionnement du NGO business, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme formule ?
C'est un peu du foutage de gueule avec un peu d'aide.
Ah bon ?
Un peu d'aide, pas beaucoup.
Habal, c'est foutage de gueule.
Je pense qu'il parle plus qu'il fait.
Il fait, c'est du vent.
Oui, bien sûr.
C'est du vent, mais avec beaucoup, beaucoup d'argent.
Oui, bien sûr. Beaucoup de l'argent qu'on ne fait rien, je pense.
Ils prennent beaucoup, ils louent beaucoup de bâtiments, beaucoup de voitures, de superbes voitures. En fait, cet argent-là part comme ça dans les bâtiments, dans les voitures, mais pas vraiment de l'aide concrète aux gens. C'est l'impression que Ramallah, c'est une espèce de ballon, une bulle qui a gonflé, gonflé.
Mais il n'y a rien.
C'est très grand, mais sans rien à l'intérieur.
Il n'y a rien.
Alors, si ça explose,
c'est fini tout.
Et vous partez?
Oui, bien sûr.
Vous dansez sur un volcan?
Bien sûr, oui. Oui.
Bon, ben c'est sympa de nous répondre en tout cas.
Merci,
avec plaisir.
Merci beaucoup.
En fait, on trouve ça évidemment étonnant ici, mais enfin, c'est des salons, c'est un salon de coiffure comme on en trouve n'importe où dans le monde.
Dans le monde, oui, bien sûr. Ce genre de type de salon très voyant, clinquant, n'existait pas auparavant. Mais c'est le décollage que ça a avec la réalité qui nous entoure. Hein. Ouais. Une ville qui vit sous occupation avec des gens d'une situation économique majoritairement très difficile et qui vivent ça, ça choque l'opinion publique palestinienne.
C'est ça. C'est-à-dire que dans le camp de réfugiés où on était hier, le gars qui a été blessé pendant la deuxième intifada nous disait qu'il recevait 200 shekels par an de la part de l'autorité palestinienne comme indemnité pour sa blessure. Ça, c'est 200 shekels par an. Et ici, une coupe de cheveux coûte 100 dollars.
C'est-à-dire, en fait, il faut...
100 dollars.
C'est-à-dire, en fait, à peu près, il faut qu'il mette ce qu'il reçoit de l'autorité palestinienne pendant 2 ans pour pouvoir offrir à sa femme une coupe ici, dans ce salon.
Voilà. C'est sans doute...
C'est ça qui choque l'opinion publique palestinienne. Ah, oui.
Et encore une fois... Cette richesse est entièrement limitée à tout ce qui tourne autour de l'aide, autour du business de l'aide.
Bien sûr.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum, juste pour me faire sentir, et sur votre corps m'évanouir, comme une goutte en pure de sang. J'aimerais être un penny, et caresser vos mèches, être dans une main fraîche, dans la moiteur me baigne. Oh, mais je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Ah, ce que je voudrais, c'est être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Seulement pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil.
This is Radio Freedom Palestine.
Ramallah Dream, c'est le titre du livre de Benjamin Barthes, qui est journaliste et qui a publié ce bouquin, Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien, qu'il a publié il y a quelques semaines à peine, et où il analyse tout ça de très très près. Il a vécu longtemps dans cette région du monde et dans cette ville, et il la connaît intimement. Et là, on voit le cynisme désengagé de ce coiffeur tout à fait sympathique, mais on pense à l'image quand même et à la mémoire de ceux qui, depuis plus de 60 ans, ont donné leur vie, leur foi pour leur terre, pour une patrie à venir. Et aujourd'hui, alors on peut pas en vouloir aux gens de vouloir vivre agréablement, bien évidemment. Les deux intifadas, surtout la seconde, a été très très épuisante. C'était un peuple cabossé, les Palestiniens. C'est des souffrances permanentes. On a l'habitude de mesurer les conflits au nombre de morts. Et on pourrait trouver, avec non sans certain cynisme, mais quand même, que somme toute, de ce point de vue-là, ce conflit est relativement de basse intensité, comme on dit. Mais il est d'une autre nature, ce conflit. Pas seulement les blessés, on en avait parlé. Le cynisme de l'occupant qui veut faire le maximum de blessés, si vous vous souvenez de reportage qu'on avait fait de la bande de Gaza. Mais c'est une pression psychologique permanente par l'humiliation. C'est l'humiliation permanente, la tension, l'énervement, la façon de pousser l'autre à la faute, à la colère, à la rage, à la folie, qui dure depuis de si nombreuses années. Alors, avant de trouver que ces gens sont trop légers, trop bling-bling, il faut penser aussi quand même à ça. Toutes ces années, tous ces efforts, toutes ces luttes qui, faut bien le constater pour l'instant, sont toutes dans l'impasse. Alors on retrouve Benjamin Barthes sur la création de cette bourgeoisie de l'industrie de l'aide qu'il a observée.
Ce à quoi on assiste actuellement dans les territoires occupés, et ce dont Ramallah est la vitrine, c'est la création d'une véritable nouvelle classe sociale qui est en train d'émerger ex nihilo, la bourgeoisie qu'on appelle la bourgeoisie de l'industrie de l'aide, c'est-à-dire les gens qui sont liés d'une manière ou d'une autre à cet argent qui arrive des pays donateurs. Alors des gens qui travaillent pour des ONG, des gens qui travaillent dans des agences de développement international, des gens qui travaillent dans des programmes de développement, des programmes humanitaires, etc.
Qui sont consultants, qui sont...
Exactement. C'est une classe sociale qui n'est pas la bourgeoisie traditionnelle, c'est-à-dire c'est pas la bourgeoisie foncière, ce ne sont pas des gens qui possèdent des terres, ce n'est pas non plus la bourgeoisie de l'OLP qui est liée à l'autorité palestinienne, qui bénéficie de pistons, de passe-droits, etc. Alors, c'est évident que cette nouvelle bourgeoisie palestinienne dont Ramallah est la vitrine, dont Ramallah est le terrain de jeu favori, c'est une classe qui, volontairement ou involontairement, mais c'est un fait, est intéressée à la perpétuation du statu quo.
Ben oui.
Évidemment, ces gens-là ont acquis une aisance, un statut, qui leur permet de minimiser l'impact de l'occupation sur leur existence. Donc ce sont des gens qui disposent de permis pour circuler en Israël, de permis pour aller à Jérusalem, par exemple, et ce sont des gens qui gagnent 5 000, 6 000, 7 000 dollars facilement. Et alors tous ces bars, tous ces restaurants dont on parle beaucoup sont les lieux de cette nouvelle bourgeoisie où l'entre-soi social peut se manifester sans le moindre scrupule. Donc cette classe sociale, elle contribue à une polarisation sociale de plus en plus forte de la Palestine, qui inévitablement également alimente une rancœur sociale.
Voilà.
Et pour l'instant, elle ne s'exprime pas beaucoup, mais c'est inévitable qu'à un moment ou un autre, si la situation se perpétue, il est inévitable qu'à un moment ou un autre, on pourrait se retrouver avec un phénomène des indignés palestiniens, quelque part. Parce qu'il y a une vraie frustration sociale qui est en train de se mettre en place.
Voilà, c'est ça, exactement. Si on va à Balata, par exemple, dans l'immense camp des réfugiés de Balata, qui ont donné quantité de combattants dans les deux intifadas précédentes, les combattants ont été désarmés et sont devenus très souvent engagés dans des systèmes de sécurité aujourd'hui. Mais enfin, rancœur, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, il n'y a pas une approbation, comme on pourrait le croire, de la démarche récente de Mahmoud Abbas.
This is Radio Freedom Palestine.
La politique israélienne vis-à-vis de l'économie des territoires occupés a toujours été une politique de dédéveloppement. C'est un concept qui a été forgé par une chercheuse américaine qui s'appelle Sarah Roy. Le dédéveloppement, c'est-à-dire, c'est de faire en sorte de saper en permanence la base productive, de saper en permanence le potentiel économique des territoires occupés, tout en maintenant en surface une impression de prospérité. Le dédéveloppement, c'est la cohabitation d'une fiction d'enrichissement sur une tendance très lourde à la déconstruction, à la destruction d'un potentiel productif. Et ça a été le cas depuis le début de l'occupation. Ce à quoi on assiste à Ramallah, cette espèce de bulle économique et financière, on l'a déjà vu dans les territoires occupés. Juste après l'occupation, au début des années 70, le gouvernement israélien a ouvert en grand le marché du travail en Israël à la population palestinienne. Les Palestiniens sont allés travailler sur les chantiers israéliens, sont allés travailler dans les restaurants, dans certains services publics, etc. Et c'est vrai que les salaires qui leur étaient offerts étaient des salaires largement supérieurs à ceux auxquels ils pouvaient aspirer dans les territoires occupés. Donc, ces gens-là ramenaient une paye correcte, voire bonne. Donc, ils ont pu se construire une maison, ils ont pu envoyer leurs enfants faire des études, etc. Mais tout cela s'est fait au détriment de l'exploitation des richesses de la Palestine. Pendant ce temps-là, pendant que les paysans et les habitants des camps de réfugiés partaient de leurs habitations, pendant ce temps-là, la colonisation s'est développée, les colons ont accaparé les terres des Palestiniens, ont accaparé les champs qui ont été laissés à l'abandon par les paysans, et ont développé cette infrastructure coloniale qui désormais empêche la mise en valeur du territoire de la Palestine. Il faut savoir qu'actuellement, la Palestine viable, ou la Palestine, comment dire, économiquement viable, c'est uniquement 40% de la Cisjordanie. Le restant, 60% de la Cisjordanie est hors d'atteinte des Palestiniens. Ne peut pas être exploité économiquement, ne peut pas être mis en valeur économiquement. C'est un territoire qui est totalement laissé en jachère.
Demain, on continue. Merci à tous, merci à Benjamin Barthes. Je rappelle à nouveau le titre de son bouquin, Ramallah Dream, aux éditions de la Découverte. Merci à Hannah et toutes les clientes de son salon de coiffure. Merci à tous ceux qu'on a rencontrés dans ce club de fitness de Ramallah. Merci à notre ami Rami Rabaya pour la traduction. C'était un reportage avec Guy Ventil. Et puis surtout, n'oubliez pas, demain, pas plus tard que demain mercredi, c'est la nuit des rapaces, organisée par Fakir. Et là-bas, si j'y suis, une soirée entière contre la finance et en fanfare, avec Xavier Mathieu, les ex-Moulinec, Gérard Mordilla, Nicolas Lambert, la compagnie Jolimôme et bien d'autres surprises. C'est à 19h à la salle Olympe de Gouges à Paris, dans le 11e arrondissement, 15 rue Merlin, métro Père-Lachaise. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et nous faire des commentaires à la technique aujourd'hui. Cédric Lalanne et Alice Berger, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Avant de me décider sur le choix de plusieurs articles, j'aime savoir où je vais. Même chose pour les services de la banque. Avec LCL à la carte, vous avez droit à un devis précis. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance. avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
Tous les dimanches, jogging. Ah oh, mais j'en ai eu marre de courir dans le même parc. Alors maintenant, je varie. Central Park, la Grande Muraille de Chine, les Maldives, même si c'est quand même un peu petit. Hein. Ah mais le mieux, c'est le Mexique. Je cours sur les marges des temples mayas comme ça, et ben en même temps, je fais du step.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Attention, vendredi dernier, le jackpot n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 53 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente The Sound of Music, la mélodie du bonheur. Au Théâtre du Châtelet, du 7 décembre au 1er janvier 2012. Comédie musicale mythique, c'est l'histoire d'une famille autrichienne qui chante sa propre mélodie du bonheur pour mieux résister à l'oppression nazie. Retrouvez The Sound of Music, la mélodie du bonheur, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Toutes nos envies, le nouveau film de Philippe Lioret avec Vincent Lindon et Marie Gélin, au cinéma le 9 novembre. Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre Stéphane, un juge chevronné et désenchanté qu'elle entraîne dans son combat contre le surendettement. Quelque chose naît entre eux où se mêlent la révolte, les sentiments et surtout l'urgence de les vivre. Après Welcome, découvrez Toutes nos envies, le nouveau film de Philippe Lioret, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Être le premier réseau social d'assurance, ça permet d'offrir à ses assurés une épargne solide, sûre, disponible et performante. Une épargne zéro tracas, zéro blabla et qui rapporte. Alors, qui c'est les clients?
C'est nous!
Ce qui est bien sur France Inter, c'est qu'il n'y a pas de pub. On se retrouve demain à 15h pour la Bassie. J'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, ce sont les réquisitions du parquet aujourd'hui au procès de Manuel Dacruz. Il comparaît depuis mercredi dernier pour l'enlèvement, le viol et l'assassinat de Marie-Christine Odo. C'était en septembre 2009. Le verdict est attendu dans la soirée. Pas de remise en liberté pour Tony Vérel. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Nancy aujourd'hui. L'ancien joueur de foot et trois de ses frères sont poursuivis pour tentative d'assassinat à la sortie d'une boîte de nuit en Meurthe-et-Moselle. Elle est fait remonte au mois dernier. C'est un événement assez rare. Bernard Accoyer a dû suspendre les débats à l'Assemblée nationale cet après-midi. Lors des questions au gouvernement, François Baroin a provoqué une véritable bronca chez les députés PS. Le ministre de l'économie a accusé les socialistes d'avoir pris le pouvoir par effraction en 97. Il répondait à une question sur le plan de rigueur. Et la rigueur, justement, tout le monde est d'accord, mais elle ne vaut pas forcément pour tous. Le groupe UMP de l'Assemblée s'est aujourd'hui prononcé contre l'amendement de l'un de ses membres. Lionel Lucas proposait de réduire de 10% les indemnités des députés dans le cadre de l'effort de rigueur nationale. Selon le député des Alpes-Maritimes, une telle réduction aurait permis d'économiser 5 millions d'euros en plus. Explication du président du groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob. Les députés ont gelé leurs indemnités depuis déjà 2 ans. Une nouvelle convention de l'UMP à Paris cet après-midi, elle concerne cette fois l'éducation. Le parti de la majorité souhaite revoir les obligations des enseignants via un nouveau statut. Le but est d'intégrer dans leur mission l'accompagnement comme le tutorat ou l'orientation. L'UMP préconise aussi la mise en place d'une évaluation de l'enseignant par le chef d'établissement sur par exemple sa capacité à faire progresser les élèves. Attention, coffee shop aux étrangers, interdit aux étrangers, pardon, le ministère de la Justice néerlandais annonce aujourd'hui que l'accès aux coffee shops du sud des Pays-Bas sera réservé ou seront réservés à partir du 1er janvier prochain aux seuls habitants du pays. La mesure est destinée à éradiquer les nuisances liées au tourisme de la drogue. Un petit tour et puis s'en va pour Michael Laudra. Le Français a été éliminé cet après-midi du tournoi de Paris-Bercy par l'Espagnol Feliciano Lopez, 7-6, 6-3. Actuellement sur le court, il y a le Français Benneteau qui affronte l'Américain Roddick. Les deux hommes en sont pour l'instant au premier set. Vous écoutez France Inter, il est presque 16h03.
Tous les matins, à partir de 10h, service public, Guillaume.
Guillaume Herner.
Du jeune pour les vieilles en matière amoureuse, cela se dit cougar. Et depuis quelques années, les cougars envahissent les pages des magazines, se multiplient les confessions et témoignages de femmes qui ont jeté leur dévolu sur des âmes plus jeunes qu'elles. Alors, fête société ou création médiatique, coucou cougar, vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 ou bien sur notre site internet franceinter.fr.
Service public. Demain sur France Inter, à partir de 10h. France Inter. La différence.
Et c'est à vous, Frédéric Lodéon, pour Carrefour de l'Odéon.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On célèbre, et c'est normal, l'année Liszt, mais c'est aussi l'année Nino Rota. Et oui, peut-être on va dire c'est moins important, mais pas du tout. Tout musicien est important et lui, il a laissé tellement de belles musiques de films, mais pas seulement, on va s'en rendre compte. Donc des musiques souvent pour Federico Fellini qui adorait son écriture. Et on peut suivre la vie, par exemple, de Vincent Mirabel dans le cinéma pour les nuls. Il parle de la musique de Nino Rota en disant que son style allie simplicité apparente et fraîcheur, mélodie populaire et soutien dramatique. Ça correspond bien à des films populaires, puis néo-réaliste. Il sait aussi capter l'esprit des musiques de cirque, l'autre passion de Fellini, bien sûr, avec le cinéma, à travers des lignes mélodiques brillantes, ironiques, dynamiques, qui servent et exaltent le baroque visuel de l'univers fellinien. Bah, évidemment, tout le monde, je crois, à partir d'un certain âge, a entendu de la musique de Nino Rota. Pour les plus anciens, dont je fais un peu partie maintenant, voici la bande originale du film La Strada, 1954. Un extrait de la bande originale du film La Strada de Nino Rota pour la musique, Federico Fellini. Donc pour tout le reste, c'est le thème qu'on a entendu. Un orchestre, non précisé, orchestre de studio bien sûr, dirigé par un grand maître de la direction d'orchestre qui aurait pu faire une carrière exceptionnelle s'il n'avait pas eu les nerfs un peu fragiles, Franco Ferrara, et qui a eu de nombreux disciples d'ailleurs. Mais Nino Rota n'a pas écrit que de la musique de film, et très souvent on enferme les gens dans une spécialité. Mais il faut savoir qu'il a fait des études extrêmement sérieuses. Par exemple à Philadelphie, il a obtenu une bourse au très réputé Curtis Institute. Et puis il est retourné à Milan après, il a continué ses études, il a composé des musiques de films certes, mais après ça aussi beaucoup d'autres œuvres pour orchestre, 10 opéras, ce qu'on ignore bien sûr, 5 ballets, de nombreuses œuvres instrumentales avant sa mort à Rome le 10 avril 1979. Voici un autre disque consacré à Nino Rota, la première édition c'était Milan, c'est donc un éditeur qui nous parle de Nino Rota, qui le fait entendre aussi, c'est l'édition du centenaire de cet auteur, et là c'est Sony Classical qui propose 2 concertos pour violoncelle, mais oui, de Nino Rota. Je vous propose, moi, d'entendre le deuxième en partie, donc le premier mouvement, Allegro Moderato, vous allez entendre, c'est de la musique vraiment très très bien conçue et qui n'est pas mise en difficulté à côté d'autres auteurs contemporains de Nino Rota.